Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri. Vous avez vérifié la date de péremption de votre carte d'identité?
Je crois que c'est 2031.
Bon, ça va, vous avez de la marge. Tranquille pour un moment. L'an prochain, dites-vous bien que 13 millions de Français vont devoir renouveler leur passeport ou carte d'identité contre 9 millions l'an dernier. Alors si on peut leur donner un conseil, c'est anticiper. Il faut en moyenne 50 jours pour obtenir un rendez-vous. 14 millions d'euros ont été débloqués pour permettre à l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS, d'aller plus vite. Mais force est de constater que c'est l'embouteillage, le reportage de Caroline Baudry.
Cette année, j'ai dû me connecter genre une dizaine de fois. J'ai jamais trouvé de créneau.
12 mois que Chloé, parisienne, est en quête sur Internet d'un rendez-vous. Elle doit renouveler sa carte d'identité périmée, quitte à s'éloigner un peu.
Même en Bretagne, même à Rennes, même à Bru, même à Bourbarré, il n'y a rien. Je vais pas non plus aller jusqu'à Marseille pour me refaire une carte d'identité. Enfin, faut pas non plus exagérer. Ben non, j'ai toujours pas de date, sauf qu'au bout d'un moment, c'est démotivant.
De nombreux Français parcourent des centaines de kilomètres pour déposer leurs empreintes dans une mairie ou une préfecture qui n'est pas saturée. À Paris, dans les discrets locaux de l'Agence nationale des titres sécurisés, la directrice Anne-Gaëlle Baudouin assure prendre les devants. Selon elle, cet embouteillage est lié notamment à une hausse des demandes de titres d'identité.
En 2022, il y a une augmentation de 20% de la demande par rapport à 2019, avant le Covid. Dans des procédures, on vous demande désormais d'avoir un titre d'identité valide. Personne âgée, par exemple, qui est dans un EHPAD, qui n'était pas forcément le cas avant, parce qu'aussi on voyage de plus en plus.
20 millions d'euros seront mobilisés en 2023 pour aider les communes à installer de nouveaux guichets. En attendant, elle rappelle que les titres périmés depuis moins de 5 ans sont acceptés pour passer des examens et le permis de conduire.
Caroline Baudry, comment faire si vos papiers sont périmés pour les vacances de Noël? Petite astuce, cherchez des rendez-vous dans les communes autour de chez vous ou bien sur la nouvelle plateforme de l'ANTS, rendez-vous-passeport.ants.gouv.fr.
8h03 sur Europe 1, la lutte de Gérald Darmanin contre le salafisme se poursuit. Le ministre de l'Intérieur vient d'interdire la venue en France d'un cheikh yéménite.
Et le prédicateur salafiste Al-Mohamedi devait mener une série de conférences ce week-end. Il n'en sera rien. Le ministre de l'Intérieur lui reproche ce genre de propos. Écoutez.
Ces chrétiens polythéistes qui mangent l'illicite, boivent de l'alcool avec leurs femmes dénudées. Pour pouvoir respecter les préceptes du Coran, il ne faut rien partager avec eux. Je conseille mes frères de sortir de ces endroits pour émigrer dans les pays musulmans.
Alors pour Gérald Darmanin, pas question de laisser passer ces hadiths des recueils d'actes et de paroles de Mahomet que prononce le prédicateur. Al-Mohamedi fait donc l'objet d'une IAT. De quoi s'agit-il exactement? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Dimitri Vernet.
Une IAT est une interdiction administrative du territoire. Prononcée par le ministre de l'Intérieur, elle empêche un étranger d'entrer sur le sol français lorsque sa présence constitue un grave danger. Une interdiction qui ne peut être levée qu'au minimum un an après, sur demande de la personne frappée par cette mesure. Dans ce cas précis, Gérald Darmanin vise le prédicateur yéménite Al-Mohamedi, homme connu, on vient de l'entendre, pour ses prêches haineux envers l'Occident, encourageant au séparatisme et au repli communautaire. Ce week-end, il devait se rendre en France à des conférences de la grande mosquée de Chilly-Mazarin dans l'Essonne, dans le cadre d'une tournée européenne qu'il a menée à Rotterdam, Cologne et Molenbeek hier soir. Molenbeek, commune bruxelloise tristement connue pour avoir hébergé plusieurs auteurs des attentats de Paris. Mais en prononçant cette IAT sur le prédicateur yéménite Al-Mohamedi, la France lui ferme donc ses portes.
Dimitri Vernet.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, c'est tous les matins dans votre journal de 8h. Peut-être avez-vous froid en ce moment, il ne fait pas bien chaud dans votre maison, alors accrochez-vous. Ça ne fait que commencer. Il va faire moins 10 degrés à Gap lundi.
Ouais, pas sûr qu'on tienne à 19 degrés comme le recommande le gouvernement. RTE prévoit un pic de consommation électrique dépassant les 80 000 mégawatts. EcoWatt, la plateforme qui prévient les délestages, pourrait d'ailleurs émettre une première alerte orange.
La première de la saison donc. D'éventuelles coupures en vue peut-être et encore tellement de questions sur leurs conséquences.
Mais oui, sommes-nous prêts à tenir 2 heures sans courant? Comment va-t-on par exemple payer ou retirer de l'argent? Les banques sont-elles dans les start Block, élément de réponse avec Baptiste Morin.
SAS d'entrée, distributeur de billets, opérations financières, toutes les activités bancaires dépendent de l'électricité. Pas moins de 800 transactions ont lieu chaque seconde en France. Alors évidemment, la menace d'un délestage fait craindre le pire. Mais le secteur bancaire est l'un des mieux préparés. Groupes électrogènes, batteries de secours, serveurs redondants, les banques sont des infrastructures critiques. La loi les contraint donc à s'organiser pour assurer la continuité de leurs activités, que ce soit en cas de pandémie, de catastrophe naturelle, de cyberattaque ou de défaillance technologique. Charles Cuvelier, directeur de la sécurité des systèmes informatiques de la banque belge Belfius.
Les générateurs qui alimentent les data centers sont garantis pour fonctionner au-delà des 2 heures qui seraient prévues pour un délestage programmé. J'ai le chiffre en tête de 96 heures, qui est un standard reconnu.
Du côté des agences, le risque se limite à une fermeture temporaire. Et si des distributeurs de billets étaient touchés, la Fédération bancaire française indique qu'il y en a 48 000 en France. Un distributeur en marge devrait donc se trouver à proximité.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
8h06, une escorte policière pour accompagner des enfants à l'école. C'est le calvaire d'habitants des 18e et 19e arrondissements de Paris.
Oui, près de la porte d'Aubervilliers, il y a encore des craqueux qui occupent le terrain. Depuis plusieurs semaines, ces consommateurs de drogue font peur à la population. Écoutez le témoignage de Frédéric Francel, membre du collectif Paris 19. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin.
Ils sont ce qu'on appelle défoncés. Et donc, du coup, ils commencent à déambuler et à chercher surtout à de nouveau reprendre le produit. Donc, ils regardent un petit peu partout, ils cherchent à dérober des choses, à agresser des gens pour avoir de l'argent. Ou éventuellement, comme ils sont défoncés, en fait, ils ont des délires psychotiques. Quoi. Donc, ils se mettent à courir dans la rue ou ils se mettent à se masturber en face de l'école. Et c'est une insécurité permanente pour les riverains, en fait, qui vivent ça. Et le souci, c'est que... Au lieu d'essayer de soigner ces personnes, d'essayer de les faire sortir de leur dépendance, on essaye de nous imposer l'idée qu'il faut les laisser consommer. À la limite, nous, on s'en fiche, quoi, qu'ils consomment ou pas. Le problème, c'est les nuisances qu'ils apportent après.
Frédéric Francel, membre du collectif 19 sur Europe 1 ce matin.
Voilà, retrouvez ce témoignage sur europe1.fr ou dans votre appli Europe 1. S'il vous plaît, remettez le masque dans les lieux publics. C'est l'appel lancé par 12 associations de malades ce matin dans Le Parisien.
Des associations qui craignent non seulement la propagation du Covid-19 et ses plus de 1000 hospitalisations par jour, mais aussi les épidémies de bronchiolite et de grippe alors que les hôpitaux sont déjà saturés.
La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle.
J-2 avant le choc des quarts de finale France-Angleterre.
Et la tension monte dans les deux camps. Si les Bleus pensent avoir la recette pour battre les Anglais, eh bien nos voisins outre-Manche ont construit un plan depuis 2 ans pour stopper l'armada de l'équipe de France. Colin Abgral dans le viseur, un joueur en particulier, Kylian Mbappé.
Comment stopper le prodige français? C'est la grande problématique. Côté anglais, le meilleur buteur de la compétition fait frissonner tout un pays. Si bien que le staff de l'équipe d'Angleterre prépare une tactique spéciale pour arrêter Kylian Mbappé. Au centre de celle-ci, le défenseur Kyle Walker entend bien surmonter ce défi.
C'est sûrement plus facile à dire qu'à faire, mais je ne me sous-estime pas. J'ai déjà joué contre lui, comme d'autres grands joueurs. Je dois lui donner le respect qu'il mérite, mais pas trop non plus, car il joue l'Angleterre. Un joueur ne fait pas une équipe.
Et pourtant, le journal britannique The Guardian révèle que le sélectionneur Gareth Southgate serait donc prêt à tout changer pour contenir Kylian Mbappé, voire même réussir à le faire défendre. Plus encore, le quotidien nous apprend qu'un membre de la fédération britannique a étudié en long, en large et en travers le style des Bleus pendant 2 années entières. De quoi dresser un plan anti-équipe de France. Kylian Mbappé, lui, avait déjà martyrisé la défense anglaise, multipliant les gestes de classe dont il a le secret. C'était en 2017. Il était âgé de seulement 18 ans.
Colin Abgral, le choc France-Angleterre, quart de finale de la Coupe du Monde sur Europe 1. Évidemment, dès 19h, rendez-vous pour être en direct et en intégralité depuis Doha au Qatar.
Et en direct avec nous à 8h30, Jean-François Pérez, comme tous les matins pour le journal de la Coupe du Monde, Europe 1, radio officielle de ce mondial. Merci Fanny Marceau. Cette information exclusive du